entre cet être premier que nous appelons Dieu, que les traditions religieuses. Respectez bien, le philosophe découvre l'exigence d'un être premier par la causalité, ne l'oublions pas, on va y revenir, par la causalité, c'est-à-dire par les effets. Il découvre la nécessité de poser cet être premier que les traditions religieuses appellent Dieu et que les traditions religieuses considèrent comme le Créateur, selon des modalités différentes. C'est pas toujours très pur. Hein. Les traditions religieuses, il y a des quantités de choses qui sont quelquefois très lourdes à porter. Et c'est Dieu Créateur. Il s'agit maintenant, au point de vue philosophique, de voir quel est le lien entre cet être premier et la personne humaine. Puisque c'est à partir de la personne qu'on a essayé de poser l'existence de l'être premier. Qu'on a découvert l'existence de l'être premier, l'exister. D'un être qui est l'être premier, d'un être qui est nécessaire, d'un être acte pur, que les traditions religieuses appellent Dieu, le Créateur. Et nous posons la question maintenant, quel est le lien entre cet être premier et moi-même qui existe, ou la personne que je vois à côté de moi qui existe. Quel est ce lien? Vous voyez donc que le problème de la création se pose tout de suite en termes de relation. C'est une relation que j'essaie de saisir. Quel est le type de relation qui existe entre cet être premier et moi-même? Puisque les deux existent. Hein. L'exister d'un être premier, je suis obligé de le poser, c'est nécessaire de le poser, et puis moi-même comme exister. Alors, quelle est la relation entre les deux? Puisque cet être premier, j'ai découvert qu'il était absolument simple, que c'est la première réflexion que je fais sur cet être premier en sagesse philosophique. Sa manière d'exister, c'est d'être absolument simple, c'est-à-dire qu'il subsiste dans son exister, puisqu'il est l'être premier. L'apanage du premier, c'est d'être simple. Philosophiquement, il ne faut jamais l'oublier. La manière d'exister, le pos du premier, c'est d'être simple. Tout ce qui est premier est simple. Tout ce qui est second est relatif au premier. Et donc, ce n'est pas simple. Dans la mesure même où vous êtes relatif à quelqu'un, vous n'êtes pas simple. Dans la mesure où vous essayez de vous découvrir vous-même dans votre propre autonomie, il y a une certaine simplicité. L'apanage de ce qui est premier, c'est d'être simple. Et donc, l'apanage de l'être premier, c'est sa simplicité. Sa manière d'exister, c'est d'être simple. Et cette simplicité, je l'exprime dans ce qu'elle a de plus profond, en disant qu'il subsiste en lui-même. Son exister subsiste. Il a son autonomie la plus absolue qui soit. Par le fait même, tout ce qui existe en dehors de l'être premier, donc moi-même, j'existe relatif à cet être premier. J'existe, mon existence apparaît comme seconde. Puisque l'exister de l'être premier de Dieu est un exister absolument simple, mon exister apparaît comme un exister complexe. C'est facile à comprendre. Hein. C'est toute la complexité de la personne humaine. La personne humaine n'est pas simple du tout. Elle est complexe. Et cette exister, donc cette manière d'exister de moi, est nécessairement quelque chose de second. J'existe donc en dépendance de cet être premier. Puisque lui existe et que moi j'existe. J'existe donc en dépendance vis-à-vis de cet être premier. Et c'est ce que j'exprime en disant que j'ai mon exister participé. Participé, c'est-à-dire que mon exister, mon essai, et relatif à l'être premier. J'existe relativement à lui. Alors, on pourrait se poser la question, hein. J'existe relativement à lui, ça ne veut pas dire nécessairement que je dépends de lui. C'est pour ça que je dis j'existe comme un essai participé. Quand je dis que j'existe dans un essai participé, je veux dire que j'existe en dépendance de lui. Je n'ai pas encore précisé, hein, en dépendance de lui. Alors, est-ce que c'est possible d'avoir deux êtres qui existeraient l'un à côté de l'autre sans qu'il y ait une dépendance? C'est une question qu'on doit se poser, au point de vue philosophique. Que vous pourriez très bien vous poser la question, hein, vous dire au fond, très bien, lui il existe de façon absolument, mais moi j'existe de mon côté. Qu'est-ce qu'il dit que je suis dépendant de lui? Parce que c'est vrai, vous n'avez pas l'expérience de la dépendance à l'égard de Dieu. Philosophiquement parlant, vous n'avez pas cette expérience. Vous n'avez pas l'expérience. Si on avait l'expérience de la dépendance de l'existence de Dieu, Dieu serait saisi immédiatement à l'intérieur de ma dépendance. C'est-à-dire que je n'ai pas cette expérience de la dépendance à l'égard de Dieu. J'ai la dépendance au point de vue vital de mon milieu, c'est sûr. Je dépends d'un être qui est antérieur à moi au point de vue de ma vie. Ça, je peux avoir l'expérience. Je n'ai pas l'expérience au niveau de mon exister de la dépendance à l'égard d'un autre être. J'ai simplement l'expérience de la limite de mon exister. Mon exister, il est limité. Tandis que l'exister de l'être premier, il n'est pas limité, il est infini. Puisqu'il est simple, il est infini. De la simplicité, je pose infini. Parce que si il n'était pas infini, il serait nécessairement reçu dans quelque chose d'autre. Il y aurait en lui une dualité. Tout ce qui est limité implique la dualité. Tout ce qui est limité implique la dualité. Tandis que ce qui est simple n'implique aucune limite, parce qu'il est simple. Oui, c'est de la simplicité qu'il faut comprendre l'infini. Parce que vous n'avez pas d'expérience de l'infini, hein. Sauf si vous êtes cartésien. Mais si vous n'êtes pas cartésien, vous n'avez pas l'expérience de l'infini. Ça, c'est la grosse erreur de Descartes, c'est de croire qu'on a l'expérience de l'infini. Et à partir de Descartes, tout l'ontologisme croit qu'on a l'expérience de l'infini. Et alors à ce moment-là, vous ne voyez plus. On n'a pas l'expérience de l'infini, mais on pose l'infini de Dieu à partir de sa simplicité. Et dès que je pose que Dieu est infini, je pose nécessairement que celui qui est limité dépend de lui. Alors il faut passer de la limite à la participation. C'est-à-dire dépend, parce que essayer de participer veut dire abalio. Celui qui est de l'autre, qui dépend de l'autre, d'un autre. Je peux être limité, enfermé dans la limite. Je suis limité, mais après tout, je suis limité, c'est tout. C'est un fait. C'est un fait, je suis limité. Je le sais. Et ce n'est pas parce que je suis limité que je dépends de mon voisin. Mon voisin aussi est limité. Parce que mon voisin est limité et que moi je suis limité, je ne dépends pas de lui. La limite ne me permet pas de dire que je dépends de lui. Tandis que je suis limité dans mon exister. Et Dieu est illimité dans son exister, il est infini dans son exister. Il faut donc qu'il y ait là une dépendance, parce que être limité dans mon exister ne peut pas provenir de mon exister. Puisque j'affirme que l'exister de Dieu est infini. Donc l'exister comme tel ne rend pas compte de la limite. L'exister comme tel ne rend pas compte de limite. Dans l'exister, il n'y a pas de raison que l'exister soit limité. L'être comme tel n'implique pas la limite. Ça, c'est la métaphysique qui me le dit. Hein. Je présuppose que la métaphysique est connue avant. C'est-à-dire que j'ai découvert que l'être était en acte avant d'être en puissance. Et si j'ai découvert que l'être était en acte avant d'être en puissance, l'être n'implique pas en lui-même la potentialité. L'être implique en lui-même l'acte. L'être est premièrement acte avant d'être limite, avant d'être en puissance. Donc, l'être n'explique pas la limite de l'être. C'est une petite chose très importante que saint Thomas souligne. Et c'est très important de comprendre que l'ens en lui-même n'implique pas la causalité. Et si l'ens implique en lui-même la causalité, je ne pourrais pas découvrir l'existence de Dieu. C'est bien évident. C'est une erreur de... Vous savez, Kant considère que l'être est nécessairement conditionné, il est nécessairement limité. Puisque toutes les expériences que j'ai sont contingentes. Et donc l'être est nécessairement contingent. Eh bien non. L'être en lui-même n'est pas contingent. Il est. Ah, évidemment, c'est la métaphysique. Hein. Si je n'ai pas le sens métaphysique, si je n'ai pas découvert ce que c'est la métaphysique, je ne peux pas le dire. Mais si j'ai découvert que l'être était premièrement acte, je peux le dire tout de suite. Il n'est puissance qu'en second lieu. Et la limite provient toujours de la potentialité. Le fondement de toute limite, c'est la potentialité. C'est parce que l'être est en puissance qu'il est limité. C'est pas parce qu'il est en acte. Non, non. L'acte ne rend pas compte de la limite. Si donc je constate qu'il y a en moi une limite, et que je suis donc un être complexe dans mon exister. Je suis un être second dans mon exister. Je suis composé, tandis que l'être premier est absolument simple. Donc, si je découvre qu'il y a en moi cette limite dans l'ordre de l'exister, cette limite provient nécessairement d'un autre. Ça ne peut pas être autrement. Ça ne provient pas de moi-même, ça ne provient pas de mon être. Donc il faut nécessairement que mon essai soit participé à la vie. Vous voyez, par la limite, je pose la participation. C'est par la limite que je suis nécessairement à la vie. À la vie. Je suis donc d'un autre. Mais je ne peux être d'un autre que de celui qui n'existait parfait. Parce que à la vie, ce serait d'un autre qui est limité. La limite dans l'ordre de l'être ne rend pas compte de la limite d'un autre être. Il faut que ce soit un être parfait qui, lui, parce qu'il est l'infini absolument simple, peut rendre compte de la limite d'un autre. Donc vous voyez comment par la limite je passe à laisser participer. Donc, la limite me fait comprendre que je suis abalio, je suis d'un autre. Il faut qu'il y ait un autre avant moi. Parce que l'acte est antérieur à la puissance. Et que la limite s'appelle la puissance dans l'ordre de l'être. Il faut donc nécessairement que l'autre soit celui qui soit au-delà de toute potentialité, qui soit acte pur, et donc qui soit l'ipsum esse subsistens. Donc je peux saisir cela par l'analyse, en comparant ma manière d'exister et la manière d'exister d'être premier. Dieu dit donc que mon essai est un essai participé. Dès que je dis que mon essai est un essai participé, c'est-à-dire qu'il est d'un autre et qu'il dépend d'un autre, je peux dire que cet essai est causé. Alors, nous allons tomber là dans le point de vue de la causalité. Alors, je vous avais dit, là, c'est très important pour nous de bien comprendre que depuis Kant, tous ceux qui sont dans la ligne de Kant n'arrivent pas à et à découvrir que je puis dire que Dieu soit cause. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une notion de la causalité qui n'est plus du tout philosophique, qui reste au niveau du conditionnement. Regardez la causalité telle que Kant la regarde. Il regarde la causalité uniquement au niveau du conditionnement, c'est-à-dire, si A existe, il faut que B existe. C'est le lien qui existe entre deux réalités. Donc c'est une relation. C'est pour ça que je dis, la causalité devient une loi. Une loi d'une constante. Chaque fois que j'ai posé A, je vois que B existe. Chaque fois que B existe, donc A existe. C'est en fonction d'une loi qui est au niveau du conditionnement. C'est un conditionnement nécessaire qui veut expliquer ce que c'est que la causalité. Donc je reste au niveau de la relation. Je ne découvre pas un principe. Je dois donc dépasser cette conception de la causalité au niveau du conditionnement, la découverte de l'analyse philosophique de l'être m'a fait comprendre que la causalité pouvait se comprendre au niveau de l'être et que la causalité était d'ordre d'un principe et non pas d'une relation. Si la causalité est dans l'ordre du principe et non pas de l'ordre de la relation, je peux appliquer la relation, je peux appliquer la causalité à ce qui est absolument premier. La causalité en elle-même n'implique aucune imperfection. Tandis que si je considère la causalité au niveau de la relation dans le conditionnement, toute causalité implique une imperfection. Je ne peux donc pas l'appliquer à Dieu. Et ça, c'est pour rappeler comment, quand nous passons de laisser participer à laisser causer, le mot cause prend tout de suite pour nous une signification qui n'est plus du tout la signification actuelle depuis Kant. Donc on est obligé là de souligner qu'on emploie causalité non pas du tout comme une manière kantienne. Mais ce n'est pas Kant qui a découvert le premier la causalité. La causalité, on en a parlé bien avant Kant. Et donc j'ai parfaitement le droit de redécouvrir la causalité telle qu'on en a parlé avant Kant. Le premier qui a essayé de préciser ce que c'est que la causalité, c'est bien Aristote. Le Platon a parlé de la causalité, mais Platon n'a pas fait le discernement entre causalité et principe. Il n'a pas fait le discernement entre les deux. Il a identifié les deux. Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que la philosophie de la causalité, c'est la philosophie aristotélicienne. Ça, c'est vrai. Il faut le reconnaître, ça. Aristote distingue principe et cause. Le principe, c'est au niveau de l'intelligibilité. Du moins, le principe existe au niveau de l'intelligibilité. On peut être principe sans être cause. Mais quand on est cause, on est toujours principe. La cause implique toujours d'être premier. Si je suis cause de quelque chose, ça prouve que je suis antérieur à cette réalité. Et cette réalité, elle est considérée comme provenant de moi. La causalité est une source d'où proviennent les autres choses. Elle est antérieure, elle est plus acte que son effet. Donc, elle est principe dans l'ordre du devenir et dans l'ordre de l'être. Je peux donc parler, quand il s'agit de Dieu, l'être premier, je peux donc parler de causalité. Et dire que laisser participer qui provient de Dieu est de fait un essai causé. Alors, pourquoi passer de la participation à la causalité? Parce que c'est déjà dit par la participation, il dit Abalio. Pourquoi suis-je obligé de passer de la participation à la causalité? Parce que la participation demeure dans l'ordre de la synthèse et non pas de l'analyse. La participation regarde une manière d'être. La causalité veut analyser cette manière d'être. Et donc la causalité va plus loin, puisqu'elle analyse les diverses manières d'être participé. Il n'y a pas qu'une seule manière d'être participé. Et donc si je veux vraiment préciser ce lien de dépendance qui existe entre moi-même en tant que j'existe et Dieu, il faut nécessairement passer par la causalité. La participation, c'est très bien, c'est constater un étant. Je constate un étant. Je suis un être participé. Et Dieu est un être au-delà de la participation. La participation demeure une manière d'être. Mais la participation ne me dit pas ce qu'est cette dépendance. Si je veux saisir ce qu'est cette dépendance, je dois passer de la participation à la causalité. Et je dois me poser la question, quel est le genre de causalité, quel est le type de causalité qui peut exister entre cet être participé que je suis et Dieu, qui est lui l'être premier. Vous voyez, là je suis à pied d'œuvre, hein, tout de suite. Et je crois que je peux aller jusque-là, que je dois aller jusque-là pour essayer d'analyser ce qu'est cette relation. Quand je suis à pied d'œuvre, je vais donc essayer de voir quelles sont les diverses analogies que je peux appliquer à cette causalité. Puisque j'en ai pas l'expérience, je n'ai pas l'expérience de la causalité première. Je serais foudroyé, là. Métaphysiquement, je serais complètement. Si j'avais l'expérience de la causalité première, j'aurais l'expérience de mon néant. C'est ce que dit saint Thomas quand il dit à propos de ce vertige métaphysique. Vertige métaphysique. Un vertige métaphysique consiste à comprendre que je suis d'abord non-être avant d'être. Alors ça, c'est vertigineux. Et ça vous donne l'angoisse. Alors, sauf si vous considérez que vous êtes porté par la causalité. Si vous êtes porté par la causalité de Dieu, vous êtes in manus tuas, dans les mains de la causalité de Dieu. Alors, si vous êtes dans les mains de la causalité de Dieu, vous pouvez comprendre qu'en vous, l'être participé, c'est-à-dire l'être limité, est d'abord pure puissance, non-être. C'est la racine de la limite. Il y a en moi un goût de néant. Et ce goût de néant, c'est la limite. S'il n'y avait pas, cette limite implique nécessairement en moi du non-être. Il y a du non-être. Mais ce non-être, je ne peux pas le séparer de mon être. Que ce non-être, je ne le saisis que par mon être. Et donc, je ne le saisis que par la causalité. Mais je peux saisir, en effet, qu'il y a en moi ce non-être. Donc, je vais essayer maintenant de préciser le caractère propre de cette causalité. Alors, première expérience de la causalité. Vous vous souvenez, nous avons fait cette petite topique historique avant pour bien comprendre et nous mettre tout de suite à pied d'homme. Première expérience de la causalité. La causalité du facere. Le facere, l'étude de l'activité artistique, me permet d'avoir une expérience première de la causalité efficiente, dépendante d'une causalité exemplaire. C'est la première expérience que j'ai. C'est le facere. Alors, est-ce que cette dépendance que j'ai à l'égard de Dieu, est-ce que c'est du même ordre? Autrement dit, le facere conduit à une œuvre artistique qui dépend de l'artiste, de l'homme artiste. Et l'homme artiste réalise son facere dans la mesure où il a une idée. Un projet. S'il n'a pas d'idée, il ne réalise rien du tout. Vous parlez, vous tâtonnez, vous êtes gâteau. Et ça ne prend jamais de force, donc il n'y a pas de résultat. Il faut l'idéal, il faut l'artiste qui ait une idée en lui pour réaliser son œuvre. Donc le facere passe par l'idéal. Et le facere est mesuré par l'idéal. L'idéal mesure ce facere, le détermine, l'oriente, et l'oriente vers une œuvre. Alors, puis-je appliquer ce schème de la causalité artistique à cette causalité première? C'est un gros problème, ça. Et je dois me poser le problème, parce que nécessairement, la première causalité, je vois qu'il y a une lien de causalité. Est-ce que je suis à l'égard de Dieu dans mon exister comme l'œuvre est à l'égard de l'artiste qui l'a façonné, qui l'a réalisé? Je vois que selon les traditions religieuses, ce chêne du potier existe. C'est quand même intéressant de voir ça. Et philosophiquement, je me sers des traditions religieuses. Hein, parce que les traditions religieuses, je m'en sers. Je vais les purifier, mais je m'en sers. Est-ce que cette comparaison du potier, de ce facere, Dieu qui fait le ciel et la terre, Dieu qui fait l'homme, et qui fait l'homme à son image, vous voyez, donc il y a une idée. Et qui fait l'homme à son image. Est-ce que cette comparaison que je trouve, cette analogie que je trouve, est-elle un mythe ou est-elle une véritable analogie? Et ça, c'est le philosophe qui doit le dire. Hein, parce que la tradition religieuse ne le dit pas. Dans la tradition religieuse, on est nécessairement un peu naïf. Il faut l'être. Dans les traditions religieuses, il faut être un peu naïf, philosophiquement parlant. Hein, parce que philosophiquement parlant, je dois être un peu naïf, j'accepte ça. Alors, est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est quelque chose de réel? La dépendance à l'égard de l'être premier est-elle de l'ordre du facere? Si elle est de l'ordre du facere, vous voyez bien, c'est l'ordre de la causalité fictionnelle. Y a-t-il une véritable causalité efficiente entre moi-même et Dieu créateur? Et une causalité efficiente de ce type du facere qui dépend d'une idée. Alors, première purification que je dois faire tout de suite. Il peut y avoir quelque chose de semblable, il doit y avoir quelque chose de semblable, mais il faut tout de suite respecter la diversité. La grande diversité, c'est que lorsqu'il s'agit du facere humain, ce facere présuppose la matière. Or, la causalité créatrice, c'est la première causalité. Parce que c'est une causalité au niveau de l'être. C'est une causalité donc radicale. Il n'y a rien avant. Tandis que lorsqu'il s'agit du facere humain, il y a nécessairement une causalité intérieure qui a produit la matière. Je ne l'ai pas produite. Toute activité artistique présuppose une matière que l'artiste a choisie. Si c'est un artiste intelligent, il a choisi la matière avec laquelle il réaliserait son œuvre. C'est ça, il a pu le choisir. C'est un donné qu'il respecte, un donné qui... à partir de laquelle il va réaliser son œuvre. Et ce donné est très important puisque la matière va être présente dans l'œuvre. Et donc s'il choisit une mauvaise matière, nécessairement l'œuvre ne sera pas aussi parfaite qu'il veut. Et je peux dire tout de suite que lorsqu'il s'agit du facere divin, il ne peut pas y avoir de matière antérieure. Et donc là, tout de suite, je vois la très grosse différence. Parce que s'il y avait une matière antérieure, je devrais donc dire que cette causalité n'est pas au niveau de l'essai. Or, nous sommes partis de là, l'essai participait. Et c'est par là que j'ai pu dire que j'étais dépendant d'être premier. Je n'ai pas voulu le dire pour autre chose. Parce que si je regarde ma nature humaine, je dis je suis dépendant d'un être antérieur à moi qui était un homme, et ainsi de suite. Je remonterai indéfiniment, et je ne trouverai pas le premier. Parce que philosophiquement, je ne peux pas découvrir le premier. Et je ne découvrirai jamais le premier. Ma foi me dit que c'est Adam, mais le philosophe ne peut rien dire. Je peux remonter indéfiniment. Dans l'ordre de la nature, dans l'ordre des déterminations, tandis que dans l'ordre de l'essai, je suis obligé de poser immédiatement une dépendance à l'égard de l'autre. Et donc, puisque cette dépendance est dans l'ordre de l'essai, elle n'implique aucune matière antérieure. Donc, tout de suite, je dois purifier cette causalité efficiente artistique en disant que la causalité créatrice, elle ne peut être qu'à partir de rien. je retrouve le ex nihilo. Et ne peut-être qu'à partir de rien. Puisque le créateur réalise quelque chose à partir de rien. Il ne peut pas réaliser à partir de quelque chose d'autre. Ce quelque chose d'autre présupposerait son activité, et donc son activité ne serait pas à partir de l'essai. Puisque l'essai est radical, il n'y a rien dehors de l'essai. Donc, elle est une activité première. Si elle est une activité première, elle est à partir de rien. Mais c'est très curieux qu'on retrouve au point de vue philosophique la première purification qui se fait à partir de cela. Et ça, je peux le dire. Dès que je suis en face d'une première activité déficiente, je peux dire qu'elle est à partir de rien. Cette causalité ne présuppose pas. Donc c'est une causalité qui ne coopère avec rien. Premier caractère de l'activité créatrice. C'est le premier caractère. C'est une activité qui ne coopère avec rien. C'est donc une activité qui, par le fait même, est un pur don. C'est pas seulement une forme. La forme a besoin de la matière pour exister, tandis qu'ici, il s'agit d'un pur don d'exister. Un pur don d'une causalité efficiente. Et je dis bien d'une causalité efficiente, alors. Là, comprenons bien. Je peux dire que c'est une causalité efficiente parce que la causalité efficiente n'est pas nécessairement uniquement du côté de la forme. Quand il s'agit de l'activité artistique, ce facere est au niveau de la forme. C'est la forme que je communique. C'est une forme que je communique. Et que je communique à travers la matière et par la matière. Quand il s'agit de la causalité efficiente, il ne s'agit pas nécessairement d'une forme. Parce que la causalité efficiente, par elle-même, n'implique pas nécessairement d'être liée à la forme. Ça peut être le niveau de l'essai. Ce facere, cette cause efficiente, n'est plus seulement au niveau de la forme, au niveau de l'essai. C'est-à-dire au niveau de l'exister. Donc au niveau de l'être. Et cette causalité efficiente va donc être une communication de l'essai à l'état pur. Comme un don. Il n'y a pas de coopération par rapport à la matière. Il n'y a pas de coopération par rapport à une matière antérieure. C'est donc une communication d'un pur don, le don de l'essai. Ce don de l'essai, de cette causalité première, est-elle mesurée par l'idéa ? C'est toujours d'entrer dans cette espèce d'analogie pour voir comment comprendre cette analogie. De dire la création est une œuvre artistique. Est-ce que j'ai le droit de le dire ? La création est une œuvre artistique. Je dis oui, je peux le dire, la création est une œuvre artistique, mais une œuvre artistique d'un type tout à fait particulier. C'est d'un type tout à fait particulier. Première diversité, c'est que c'est à partir de rien. Deuxième diversité, c'est que la causalité porte non plus sur la forme, mais sur l'essai. Si tu restes comme ça, c'est peut-être à partir de rien. Parce que si c'était au point de vue de la forme, ce serait nécessairement à partir d'une matière. Troisième diversité, c'est que cette idéa ne peut être que la contemplation de Dieu lui-même. Parce que Dieu est absolument simple, donc il ne peut pas y avoir une idéa qui vient s'ajouter, une idée qui vient s'ajouter à Dieu. Dieu est tout simple. Cette activité créatrice qui provient d'un être absolument simple ne peut provenir que de la contemplation même de Dieu. Donc de sa sagesse. La contemplation de lui-même, donc de sa sagesse. Voilà les trois purifications que je dois faire par rapport à ce facere. Ça reste bien une causalité efficiente, et une causalité efficiente artistique, c'est vrai. En ce sens que c'est la communication d'un être pur. Dieu créateur est l'artiste premier Mais je souligne l'artiste premier. Il est l'artiste au niveau de l'être. Et parce qu'il est l'artiste au niveau de l'être, son art ne peut s'enraciner que dans sa contemplation de lui-même. Alors ça, c'est très très fort. La contemplation de lui-même, et non pas du tout une espèce d'inspiration qui serait quelque chose à côté de lui. Autrement dit, en Dieu, Dieu et créateur ne font qu'un. Tandis que dans l'homme, l'homme et l'artiste font deux. L'homme n'est pas artiste en tant qu'homme, et Dieu est créateur en tant que Dieu. Il n'est pas créateur en tant qu'il est créé, voyez, en tant qu'il y a quelque chose en lui de différent. Donc, ce qu'il communique, c'est quelque chose de lui. Et c'est en ce sens-là que c'est un don de l'esprit. L'esprit provient de lui. L'exister provient de lui. Ce n'est pas quelque chose d'ajouté à lui qu'il donnerait gratuitement. Quand nous donnons gratuitement quelque chose, nous avons un fond secret. Nous savons que ce n'est pas nous qui nous donnons. Mais nous donnons quelque chose de nous, quelque chose d'extérieur à nous. L'artiste voudrait bien se donner, mais il ne se donne jamais. C'est toujours son idéal. C'est toujours quelque chose qui est le fruit de son inspiration. Vous voyez, c'est très curieux, cette espèce de nostalgie qu'il y a dans l'art, et chez beaucoup d'artistes, cette nostalgie de vouloir se communiquer dans ce qu'on a de plus profond dans son œuvre. Et on ne peut pas. L'artiste communique son inspiration. Et son inspiration, ce n'est pas sa propre contemplation. Ce n'est pas lui-même. Parce que lui-même, il ne pourrait pas se communiquer de cette manière-là. Il y a nécessairement une communication qui se fait par le point de vue de l'idéal. Donc je crois que là, on peut souligner tout de suite cette analogie qui est très ténue, vous voyez. Très ténue, parce qu'elle est purifiée par les trois mots. L'idéal, la matière et le contenu qui va tirer. Donc une triple purification. Alors, ce qui serait très intéressant, c'est de voir comment, s'il n'y a pas cette triple purification, comment je tomberai dans une espèce de projection du Dieu créateur à la manière d'un artiste d'un potier. Alors, à ce moment-là, je tomberai dans un mythe. Il y a quelque chose de purement symbolique. Purement symbolique et même métaphorique. Pas symbolique, métaphorique. Ce serait métaphorique. Si je projette l'activité du potier sur Dieu, je dirais nécessairement que Dieu agit sur une matière antérieure à la création, donc qui proviendrait d'un autre principe. Que l'activité de Dieu ne serait que transformer une matière première, et que Dieu communiquerait les idées qu'il a en tant qu'artiste. Alors à ce moment-là, la créature ne dit plus rien de Dieu. Et l'exister ne dit plus rien de Dieu. Et je suis en face d'une équivocité absolue. Vous voyez, l'erreur de la pure équivocité, ça relève justement d'une non-purification de la création. Quand je dis que l'être créé, moi-même, en tant qu'exister, je ne peux rien dire de Dieu. D'où ça vient? C'est que j'ai projeté sur Dieu, métaphoriquement, l'activité de l'artiste. Si je projette sur Dieu l'activité de l'artiste, j'en arrive à dire que l'être humain, mon exister, est purement équivoque par rapport à Dieu. Ça, c'est important de souligner, parce que c'est toujours important de voir d'où viennent les erreurs. On fait l'enquête philosophique, on essaie de comprendre le mieux possible, et puis après, on regarde d'où vient l'erreur. Seconde analogie, donc première analogie, l'analogie du Thatcher. Je peux très bien l'employer. Seconde analogie, que je vois dans la philosophie. Dieu est un père, et je conçois le point de vue de la création comme une génération. La seconde analogie que de fait nous voyons constamment. Dieu est un père, enfin, Dieu, vous voyez, Dieu est artiste, Il est le premier grand horloger, il est le premier grand architecte, il est un artiste qui façonne le monde, notre analogie. Seconde analogie, il est un père qui communique sa vie. Alors, dans quelle mesure puis-je me servir de cette seconde analogie, qui est l'analogie de la procréation, de la fécondité de la procréation? Dans quelle mesure puis-je me servir? Alors, nous allons faire, mais nous n'avons plus le temps, nous allons faire la naine purification en nous demandant s'il y a quelque chose qui demeure. Quand vous prenez donc la procréation, la communication de vie, le père qui communique la vie à son fils, ou la mère qui communique la vie à son fils, la procréation. Dans quelle mesure la création peut-elle être dite une procréation, une communication de vie? Voyons bien, cette communication de la vie, c'est la cause efficiente vitale. Ce n'est plus la cause efficiente artistique, c'est la cause efficiente vitale. Une causalité efficiente vitale qui communique la même nature. Puisque l'engendrant est source de la nature de l'engendré. Et ils ont une similitude entre les deux. Une similitude de vie. C'est dans l'immanence de la vie. Et cette immanence consiste à communiquer la même nature vivante. Alors, je crois qu'on voit tout de suite les purifications que ça demande. Je n'ai pas la même vie que Dieu. Je suis laissé participer. C'est donc pas une similitude. Alors, est-ce qu'il resterait quelque chose de l'analogie entre les deux? Nous verrons ça la prochaine.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.